journée à l'écoute de nos programmes. Jean-Roger Bion à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 13 mars 2024. Le Kenya suspend le déploiement de policiers en Haïti en attendant la mise en place d'un gouvernement de transition à Port-au-Prince.
Le Premier ministre est toujours à l'étranger et le conseil n'est pas encore monté. On doit encore une fois, malheureusement c'est le mot, attendre pour voir quelles seront les réactions des uns et des autres. Mais la situation est très compliquée sur le terrain.
France Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste, nous fera le point de la situation en Haïti. Une délégation de plusieurs hauts responsables américains a rencontré mardi à Niamey plusieurs membres du régime militaire. Au Tchad, l'ONU va suspendre l'aide alimentaire aux réfugiés soudanais faute d'argent. Israël va déployer vendredi des milliers de policiers pour la grande prière à Jérusalem. Ici aux États-Unis, Donald Trump et Joe Biden assurés de décrocher l'investiture de leur parti après les primaires mardi dans 4 États, dont la Géorgie. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le Kenya a décidé de suspendre l'envoi prévu de policiers en Haïti dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU. Cette décision intervient après la démission du premier ministre haïtien Ariel Henry. Les précisions avec Nani Talani.
Il y a eu un changement radical à la suite de l'effondrement complet de l'ordre public et de la démission du premier ministre. Ariel Henry a déclaré Korir Singoé, secrétaire général du ministère kényan des Affaires étrangères. Le gouvernement kényan attendra donc l'installation d'une nouvelle autorité en Haïti avant de prendre d'autres décisions sur la question, a-t-il ajouté. Il précise que Nairobi reste toutefois disposé à fournir un leadership à la mission qui a été approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU en octobre. Les États-Unis ont immédiatement réagi, disant ne pas voir de raison de retarder cette mission de police. « Nous ne pensons pas qu'un retard soit nécessaire », a déclaré le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller. Le Kenya s'était dit prêt à envoyer un millier de policiers en Haïti, pris en état de siège par des gangs armés. Le premier ministre Ariel Henry a signé le 1er mars à Nairobi avec le chef de l'État kényan William Ruto un accord pour l'envoi de policiers kényans. Il a annoncé lundi soir sa démission réclamée par les gangs et une partie de la population.
Au Sénégal, tout ne semble pas perdu pour Ousmane Sonko. L'État du Sénégal devrait renoncer à un recours contre une récente décision de justice favorable à l'opposant emprisonné. Le désistement concerne une ordonnance du 14 décembre du tribunal de grande instance de Dakar. Le tribunal avait ordonné la réintégration de M. Sonko sur les listes électorales desquelles il a été radié après une condamnation par contumace à 2 ans de prison ferme le 1er juin 2023 dans une affaire de mœurs. Une audience de la Cour suprême est prévue demain jeudi pour examiner le recours interjeté par l'État contre l'ordonnance du 14 décembre. L'un des avocats de M. Sonko, Maître Djibi Diagne, plutôt optimiste, a dit que son client devrait recouvrer ses droits électoraux si l'État confirme son désistement. Plusieurs hauts responsables américains sont à Niamey au Niger. Il s'agit entre autres de la sous-secrétaire d'État en charge de l'Afrique, Molifi, et le commandant en chef d'Africom, le commandement américain pour l'Afrique. Ils vont échanger avec les militaires qui ont renversé le régime du président Mohamed Bazoum en juillet 2023. Les détails avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Dès son arrivée à Niamey, la délégation américaine a eu une rencontre avec des membres du gouvernement conduit par le premier ministre de transition Ali Mahaman Lamine Zen. Aucune des parties n'a fait de déclaration à la fin de cette rencontre. Côté américain, cependant, l'on prévoit de faire le point de la visite à la presse en début d'après-midi ce mercredi. Selon le département d'État américain, la visite a pour objectif de poursuivre les discussions engagées depuis le mois d'août 2023 avec les militaires au pouvoir à Niamey. Des discussions qui portent sur le retour sur la voie de la démocratie au Niger ainsi que l'avenir du partenariat entre le Niger et les États-Unis d'Amérique. Un partenariat qui, il faut le rappeler, avait été suspendu après le coup d'État du 26 juillet 2023. Les États-Unis d'Amérique ont tout de même garder leurs milliers de soldats stationnés sur la base aérienne d'Agadez. Lors de sa dernière visite au Niger, au mois de décembre 2023, la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines, Molifi, avait indiqué l'intention de son pays à reprendre sa coopération avec le Niger à la condition que les nouvelles autorités annoncent un délai pour une transition rapide devant déboucher sur un gouvernement démocratiquement élu. Abdul Razak Idrissa pour VOA Afrique.
Au Nigeria, des hommes armés ont encore enlevé, dans la nuit de lundi, 61 personnes dans le village de Bouda, dans le nord de l'état de Kaduna, quelques jours après la disparition de près de 300 étudiants lors d'une attaque menée par un groupe armé, ont indiqué des habitants mardi. 32 femmes et 29 hommes au total ont été kidnappés, a indiqué le député du secteur Ousmane Dalami Stingo aux médias Arise News. Les députés togolais ont prolongé mardi de 12 mois l'état d'urgence dans la région de Savane, située dans l'extrême nord du Togo, en proie à des incursions de groupes djihadistes depuis novembre 2021. Décrété en juin 2022 par le président togolais Faure Gnassingbé, l'état d'urgence a été prorogé deux fois. La dernière prorogation de 12 mois a pris fin mardi à minuit. Des élections législatives et régionales sont prévues le 20 avril dans le pays. Ces législatives seront couplées avec des élections régionales que le Togo organisera pour la première fois. Le gouvernement camerounais a enjoint mardi deux coalitions politiques d'opposition, l'Alliance pour le changement, APC, et l'Alliance pour une transition politique au Cameroun, ATP, de suspendre leurs activités et leur attribuer un caractère illégal à 18 mois de la prochaine élection présidentielle. De curieuses menaces et un communiqué qui transpire la panique a réagi l'APC, se disant prête pour affronter victorieusement les élections de 2025. Le Programme alimentaire mondial a annoncé mardi qu'il allait devoir suspendre en avril, en raison de contraintes financières, son aide à des centaines de milliers de réfugiés soudanais arrivés au Tchad. Le PAM appelle à des dons pour éviter une catastrophe. Rosine Monezero.
Le débordement de la crise soudanaise est en train de submerger la réponse humanitaire au Tchad, déjà sous-financée et surchargée, a indiqué l'agence de l'ONU chargée de l'aide alimentaire aux déplacés par les conflits ou démunis après une catastrophe. Nous avons besoin des donateurs pour éviter que la situation ne devienne une catastrophe totale, poursuit le PAM, en chiffrant un besoin d'urgence de 242 millions de dollars, évoquant une course contre la montre. Selon le PAM, après l'éclatement du conflit au Soudan le 15 avril 2023, plus de 559 000 réfugiés soudanais et 150 000 rapatriés tchadiens sont entrés au Tchad. L'afflux de réfugiés s'ajoute aux difficultés du Tchad pour nourrir sa population, souligne le PAM. Mi-février, le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno a décrété l'état d'urgence alimentaire et nutritionnelle sur tout le territoire. Le Tchad abrite de nouveaux déplacés et réfugiés en raison des conflits sur son territoire et chez ses voisins.
L'armée soudanaise a annoncé mardi dans un communiqué avoir repris le siège de la radio-télévision publique contrôlée par les forces de soutien rapide FSR soudanaise, unité paramilitaire en guerre depuis 9 mois contre les troupes régulières. Aucune confirmation n'a été obtenue auprès des FSR. Les FSR et l'armée régulière sont entrés en conflit à la mi-avril 2023 et les tentatives de médiation des États-Unis et de l'Arabie saoudite pour un arrêt des hostilités n'ont pas abouti.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plusieurs milliers de policiers seront déployés vendredi dans et autour de la vieille ville de Jérusalem, a indiqué mardi la police israélienne. Des fidèles musulmans y sont attendus en masse sur l'esplanade des mosquées pour la première grande prière depuis le début du Ramadan. Mohamed Oumfa.
Nous sommes prêts pour la prière de vendredi. Des milliers de policiers seront déployés dans la zone du Mont du Temple, nom donné par les Juifs à l'esplanade des mosquées, a déclaré la porte-parole de la police, Mirit Ben-Mayor, lors d'une conférence de presse à Jérusalem. Nous sommes en haut niveau d'alerte, a déclaré pour sa part Tal Hanrich, porte-parole du bureau du Premier ministre. La grande majorité des fidèles vient pour prier, mais ce n'est pas un secret que les organisations terroristes extrémistes palestiniennes, comme le Hamas et le djihad islamique, tente d'enflammer la région, a-t-elle ajouté, en exhortant les musulmans à ne pas se laisser duper par les terroristes. Depuis le début du Ramadan, des dizaines de milliers de fidèles se sont déjà rendus sur l'esplanade sans incident majeur. Toutefois, des restrictions sont imposées aux Palestiniens de Cisjordanie occupée où la tension est maximale depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël.
Politique américaine, Joe Biden et son rival Donald Trump ont remporté assez de délégués mardi pour s'assurer d'être les candidats de leur parti à l'élection présidentielle américaine de novembre, selon les estimations des médias américains. Les résultats des primaires démocrates et républicaines dans les États de Géorgie, du Mississippi et de Washington étaient pratiquement acquis d'avance, messieurs Biden et Trump ayant éliminé la concurrence dans la course à l'investiture. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Abdourahman Dia.
Au Nigeria, un responsable du ministère de l'Électricité a annoncé que l'Union européenne prévoit d'injecter près de 40 millions de dollars dans le secteur de l'électricité. Grâce à des investissements conséquents dans le secteur de l'énergie électrique, le Nigeria pourrait renforcer la croissance de son économie selon la Banque centrale. Le Nigeria, grand producteur de brut, fait face à d'importantes coupures d'électricité. Selon un rapport publié le 11 mars 2024 par l'Institut international de recherche sur la paix, 24% des importations d'armes en Afrique entre 2019 et 2023 proviennent de la Russie. De manière générale, les importations d'armes par l'ensemble des États africains sur la même période ont chuté de 52% comparativement à la période 2014-2018, en raison surtout de fortes baisses des importations de l'Algérie et du Maroc. Enfin, le constructeur aéronautique américain Boeing a livré en février 17 exemplaires du 737 MAX, son avion vedette. Pour la première fois depuis 2019, un Boeing 737 MAX a été livré à une compagnie chinoise fin janvier. D'après les données publiées mardi par le constructeur, 6 autres appareils ont suivi en février pour 5 autres compagnies chinoises. La Chine avait suspendu en 2019 toutes les livraisons d'avions de Boeing après 2 accidents survenus en 2018 et 2019 ayant impliqué des 737 MAX 8 faisant 346 morts au total.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Jean-Roger, bonjour à tous.
Football pour commencer, on connaît les oppositions des quarts de finale de la Ligue des Champions CAF.
Oui, le tirage au sort a eu lieu au Caire, en Égypte. Le premier quart de finale va opposer le Simba SC, géant tanzanien, à Al Ahly SC, champion en titre et détenteur du record de victoire de la compétition. Assoiffé depuis son dernier sacre en 2015, le tout-puissant Mazembe va accueillir les Angolais de Petro à Lubumbashi lors du match aller avant de se rendre à Luanda pour le match retour. L'Espérance sportive de Tunis, quadruple championne de Tunisie, joue contre l'ASEC Mimosa, vainqueur en 1998. Dans le dernier quart de finale, l'autre géant tanzanien Young Africans, finaliste de la Coupe CAF la saison dernière, va se mesurer au Sud-Africain du Mamelodi Sundowns. Les matchs aller auront lieu les 29 et 30 mars et ce retour les 5 et 6 avril prochains.
Les oppositions des quarts sont également connues en Coupe CAF.
Gros derby égyptien entre Moderne Futur et le Zamalek, vainqueur de l'édition 2019. Les Libyens d'Abou Salem vont affronter les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane, double vainqueur en 2020 et 2022. Les Nigériens du Rovers United défient le champion en titre, l'USM Alger, champion de l'édition 2019. Eh bien, le Stade malien va affronter les Ghanéens de Dream FC en quart de finale.
La balle au panier avec les nouvelles de la Basketball Africa League.
Oui, c'est jour de repos et donc pas de rencontre aujourd'hui à la Sandbet Arena de Pretoria en Afrique du Sud, où se jouent les matchs de la conférence à Kalahari. Hier, 2 rencontres étaient au programme, mais seul le match Cape Town Tigers, fils de Rabat, a eu lieu. Les Marocains se sont imposés 84 à 58 devant les Sud-Africains. La rencontre entre Dynamo BC du Burundi et Petro de Luanda n'a pas eu lieu une fois de plus, les autorités burundaises refusant que leur équipe porte les maillots où s'est inscrit visite au Rwanda, sponsor officiel de la compétition. Dynamo Basketball Club a de nouveau refusé de se conformer aux règles et exigences de la Basketball Africa League concernant les maillots et les uniformes, déclarant ici forfait pour le match contre Petro de Luanda et pour sa participation à la saison 2024 de la balle. Selon les règles de la FIBA, 2 forfaits dans le même tournoi entraînent le retrait automatique du club, a réagi le président de la balle, Amadou Gallo Fall.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Radio Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Guinée, le tout nouveau Premier ministre Amadou Ouriba a reconnu que les militaires qui ont pris le pouvoir en 2021 doivent le garder au moins jusqu'en 2025. Il dresse un tableau sombre de l'état de son pays et a évoqué l'explosion du principal dépôt de carburant qui a fait 25 morts en décembre. Selon lui, il faudra d'abord un apaisement car le climat politique et social est assez tendu en Guinée. Dans un entretien exclusif avec Idrissa Fall, Amadou Ouriba s'explique depuis Conakry.
C'est vrai, mais je pense qu'avec ma nomination, nous sommes en train de travailler à créer un nouveau type de rapport entre tous les éléments de la classe politique guinéenne et avec les acteurs sociaux également. Donc, avec l'aide de Dieu, on doit tenir le cap d'organiser le processus de retour à l'ordre constitutionnel de la manière la plus idoine, en privilégiant l'intérêt de l'État guinéen et du peuple guinéen. Cela veut dire quoi? Nous voulons qu'il y ait des instruments permettant à la Guinée, de manière irrévocable, d'en finir avec des instabilités chroniques qui surviennent pratiquement au tournant de chaque décennie. D'où la nécessité de faire correctement le processus permettant d'avoir un fichier électoral crédible et qui ne pourra pas être contesté. C'est un challenge extrêmement important pour la stabilisation de la République de Guinée. Après ça, nous pourrons examiner avec lucidité, dans la suite de concertations élargies avec l'ensemble des acteurs, la fixation des dates des consultations électorales prochaines.
Est-ce que ces consultations vont inclure, je cite nommément, Sellou Dalein Diallo, avec qui vous aviez eu quelques bisbilles au sein de l'UFDG?
Je ne peux pas vous dire par oui ou par non. Je pense qu'il y a un dossier judiciaire qui est latent. Je ne me mêle pas des questions judiciaires qui concernent des justiciables. Wait and see.
Qu'en est-il des problèmes quotidiens des Guinéens? Coupure de courant, la vie chère et tout ça. Vous pensez pouvoir régler ça d'ici 2025?
C'est une situation particulièrement difficile. La demande sociale n'a pas été correctement satisfaite. Les impatiences se font entendre, tant pour le quotidien, c'est-à-dire les questions de chèreté de vie, que la question de la desserte en électricité pour l'ensemble de la population. Et ça, c'est un handicap extrêmement important pour l'ensemble des acteurs économiques et de la population dans notre pays. Nous avons été affectés par cette explosion au niveau du dépôt de carburant qui vraiment a été une catastrophe nationale. De l'autre côté, l'inflation importée, plus également, disons, une gestion qui n'a pas été tout à fait vertueuse au niveau de l'économie nationale, fait endurer des difficultés à la population. Et nous sommes en train de prendre des dispositions avec l'accompagnement et une bonne intelligence avec la Chambre de commerce de notre pays pour atténuer les difficultés en ce qui concerne l'accès aux denrées de première nécessité. Par ailleurs, nous avons pris la décision pour une période de 3 mois d'empêcher la réexportation ou l'exportation de nos produits vivriers pour ne pas faciliter un coulage financier. Et également, cette mesure aura pour effet d'accroître l'offre en produits de première nécessité sur le plan alimentaire à nos populations.
C'était le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba depuis Conakry. En Haïti, le Premier ministre Ariel Henry a démissionné, ce qui était réclamé par les gangs et une partie de la population. Monsieur Henry est bloqué sur le territoire américain de Porto Rico et n'a pu rentrer à Port-au-Prince à cause des violences. Est-ce que cette démission va contribuer à ramener la paix en Haïti? Yacouba Ouédraogo a posé la question à France Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouveliste à Port-au-Prince.
Pour le moment, le Premier ministre a annoncé sa démission.
Il y a un conseil présidentiel de transition qui doit être formé. Ensuite, on doit trouver un nouveau premier ministre, monter un nouveau gouvernement et s'atteler à se colter aux problèmes d'Haïti. Le premier ministre était devenu un boulet. Il ne pouvait pas rentrer à Port-au-Prince. Son gouvernement n'était pas vraiment fonctionnel. Les gangs sont en train de prendre du terrain. Là, on est passé à autre chose. Mais ça ne veut pas dire que pour le moment, les problèmes d'Haïti sont résolus ou sont en voie de l'être.
Qui pourrait composer ce conseil? Et est-ce que ce serait possible de mettre ce conseil en place justement?
Bon, pour le moment, on ne sait pas qui est-ce qui va composer ce conseil. Les discussions se sont terminées très tard hier soir. Aujourd'hui, on attend les réactions des partis politiques qui sont concernés par la composition de ce conseil. Ils doivent désigner des membres pour faire partie du conseil, mais personne n'est encore désigné pour faire partie du conseil.
Jimmy Cherizier, alias Barbecue, chef de gang, avait demandé la démission du Premier ministre. Est-ce que vous pensez que cela va contribuer à apaiser justement ces gangs-là?
Le Premier ministre a remis sa démission, mais sur le terrain, rien n'a encore changé. C'est-à-dire les gangs contrôlent toujours les quartiers qui étaient contrôlés par les gangs. Le gouvernement était déjà en repli et incapable de fonctionner. Le Premier ministre est toujours à l'étranger et le conseil n'est pas encore monté. On doit encore une fois, malheureusement c'est le mot, attendre pour voir quelles seront les réactions des uns et des autres. Mais la situation est très compliquée sur le terrain.
Il y a les États-Unis qui annoncent une aide de 133 millions de dollars supplémentaires. Il y a le Canada qui annonce 93 millions de dollars. Il y a le Kenya qui va envoyer des troupes sur place. Est-ce que cela va contribuer à ramener la paix en Haïti selon vous?
Ça fait 16 mois qu'on parle de la nécessité de déployer une mission en Haïti. Depuis le mois d'octobre, le Conseil de sécurité a pris une résolution. Ça va faire 6 mois que cette résolution existe. On annonce les millions régulièrement, mais rien ne se passe concrètement. Les Haïtiens disent tous qu'ils attendent de voir quelque chose de concret.
Quelle est la vie quotidienne des Haïtiens présentement?
En province actuellement, c'est le calme. Le reste du pays fonctionne. En Port-au-Prince, c'est scindé en deux. Il y a une partie où les gangs ont établi leur périmètre, où il n'y a quasiment pas de transport public, pas d'entreprise ouverte, pas de marchands dans les rues. Et puis il y a une autre partie de Port-au-Prince, du côté de Pétionville particulièrement, où la vie continue, le transport en commun fonctionne, les entreprises sont ouvertes, les banques sont ouvertes, enfin, c'est la vie courante, normale, sauf que très tôt, les gens se rendent chez eux parce qu'il y a un couvre-feu.
Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouveliste à Port-au-Prince.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Les Nations Unies affirment qu'au moins 20 enfants de Gaza sont morts de faim et les médecins disent que beaucoup d'autres souffrent de maladies physiques et mentales graves. Les détails dans ce reportage de Hider Murdoch avec la voix de Rosine Monezero.
Les enfants de la bande de Gaza n'ont pas été à l'école depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, mais les parents disent que pour l'instant c'est le moindre de leurs soucis. L'ONU affirme que plus de 12 000 enfants sont morts dans la guerre et 20 d'entre eux sont morts de faim ces dernières semaines. 17 000 ont perdu leurs parents ou en ont été séparés. Presque tous les enfants de la bande de Gaza ont été contraints de fuir leur maison et les parents disent que même les enfants les mieux traités sont traumatisés. Ekmat Al-Masri, une mère de Gaza.
Mon fils est constamment réveillé la nuit. Il pleure, il dit « Mon père me manque ». J'aimerais que nous puissions rentrer chez nous. Je veux vivre la vie normale que nous avions l'habitude de vivre.
Le ministère de la Santé de Gaza affirme que près de 31 000 personnes ont été tuées. La guerre a commencé lorsque le Hamas a attaqué Israël, tuant 1 200 personnes et prenant moins 240 otages. La plupart des plus de 2 millions d'habitants du territoire palestinien sont entassés dans des abris à Rafah, près de la frontière égyptienne. Dans l'hôpital Abu Youssef al-Najjar, les pédiatres affirment que tous les enfants souffrent de traumatismes psychologiques et physiques évidents et des conséquences de la faim. Le docteur Saïd Abdourahman Mahmoud Marouf est pédiatre à l'hôpital Abu Youssef al-Najjar.
Ils ont tous des problèmes de croissance. Ils sont tous malades. Même les mères n'ont pas de lait pour nourrir leurs bébés. Elles disent, je ne peux pas produire de lait pour les nourrir et comment pourrais-je en acheter?
Selon ce médecin, certains enfants peuvent identifier les bombes, les avions et les membres de leur famille ou leurs voisins qui sont morts. D'autres gémissent et s'accrochent à leurs parents presque tout le temps. Beaucoup ont commencé à avoir des hallucinations, mais certains enfants gardent l'espoir de retrouver leurs proches. Abed Al-Razek Al-Mastri, 12 ans.
Je souhaite rentrer chez moi.
Hekmat Almastri, une mère, dit que les parents ne peuvent pas répondre aux enfants quand ils demandent de la nourriture qu'ils avaient l'habitude de manger.
Les mères ne peuvent pas répondre aux questions de leurs enfants. Elles ne peuvent pas répondre à leurs besoins, même pour la nourriture. Les enfants demandent de la viande, du poisson, du chocolat ou des sucreries qu'ils avaient l'habitude de manger, mais nous ne pouvons pas les obtenir maintenant.
Israël affirme qu'il n'impose aucune restriction sur la quantité d'aide qui peut entrer à Gaza, bien qu'il insiste pour inspecter toutes les livraisons afin de s'assurer qu'elles ne transportent pas d'armes destinées au Hamas. Il accuse également le Hamas de détourner l'aide pour l'utiliser par ses combattants. Amnesty International accuse l'armée israélienne de limiter considérablement l'aide qui entre dans le territoire. Les Nations Unies estiment qu'une famine généralisée est imminente si l'accès à l'aide ne s'améliore pas. Les efforts déployés pour fournir de l'aide par voie aérienne ou maritime sont les bienvenus, mais ils ne peuvent remplacer l'afflux massif d'aide par voie terrestre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Dans son rapport annuel d'évaluation des menaces mondiales, la communauté du renseignement des États-Unis a déclaré aux législateurs que la guerre en Ukraine est à un tournant dont l'issue dépendra de l'aide américaine. Le Sénat a demandé à la Chambre des représentants d'examiner le projet de loi sur l'aide à l'étranger d'un montant de 95 milliards de dollars. Voici le reportage de Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès. Le récit est de Nanit Talani.
À court de munitions et d'autres fournitures essentielles, l'Ukraine attend une nouvelle tranche d'aide de la part des États-Unis. Près de 60 milliards de dollars approuvés par le Sénat américain ne feront pas l'objet d'un vote à la Chambre des représentants, a déclaré le président de la Chambre, Mike Johnson. Des sénateurs ont déclaré lundi que l'absence d'aide serait une grave erreur. Mark Warner, président de la commission du renseignement du Sénat américain.
Je crains que la décision prise jusqu'à présent par la Chambre des représentants de ne même pas examiner une législation qui soutiendrait l'Ukraine dans sa lutte contre l'agression de Poutine, mais était l'une des décisions les plus imprévoyantes que je puisse imaginer en matière de sécurité nationale.
Dans son évaluation annuelle des menaces mondiales, la communauté du renseignement américain affirme que le président russe Vladimir Poutine s'attend à ce que le soutien occidental à l'Ukraine s'affaiblisse. Écoutons William Burns, directeur de la CIA.
Nous sommes à un carrefour profondément important pour l'Ukraine, pour la sécurité européenne et pour les intérêts américains à long terme dans le monde. Je pense qu'au bout du compte, avec une aide supplémentaire approuvée par le Congrès, se trouve la possibilité très réelle de cimenter un succès stratégique pour l'Ukraine et une perte stratégique pour Vladimir Poutine.
Le projet de loi sur l'aide à l'étranger comprend également des milliards de dollars de financement pour les pays de l'Indo-Pacifique afin de lutter contre l'agression chinoise. La directrice du renseignement national, Avril Haines, a déclaré aux législateurs que l'agression devrait s'intensifier au cours de l'année à venir.
Pékin continuera à utiliser ses forces militaires pour intimider ses voisins et pour orienter les actions de la région en fonction des priorités de la République populaire de Chine. Nous nous attendons à ce que la Chine alimente des plateformes plus avancées, déploie de nouvelles technologies et devienne plus compétente dans les opérations conjointes avec un accent particulier sur Taïwan.
Mais les républicains de la Chambre des représentants affirment qu'ils n'examineront pas le projet de loi sur l'aide à l'étranger tant que des changements ne seront pas apportés à la loi américaine sur l'immigration afin de rendre la frontière américano-mexicaine plus sûre.
Nous prenons l'argent de nos impôts durement gagnés et l'envoyons à 8000 km d'ici sans aucune fin en vue. Pendant ce temps, notre frontière est grandement ouverte et nos citoyens américains sont assassinés dans nos rues, c'est un problème.
Les démocrates de la Chambre des représentants et certains républicains étudient les possibilités de forcer un vote sur le projet de loi sur l'aide étrangère qui comprend également près de 14 milliards de dollars d'aide à Israël et d'aide humanitaire à Gaza.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. Je vous souhaite une excellente journée. Allez.